Le premier son.
Une hanche libre.
Un animal.
Un chat.
Qu'est-ce qui respire?
La vie.
Bonsoir à vous, c'est Supersonic. C'est bien les rencontres comme ça, après une bonne journée, après une bonne semaine. À ces machines. Les machines ont leur culture, salut les androïdes. Même parfois, les machines respirent, ou on les fait respirer. D'ailleurs, on partage l'oxygène, même avec les moteurs. Pas de gasoil, pas d'essence dans l'instrument de notre invité Scott Taylor que vous venez d'entendre, mais de l'énergie, ça oui, et un mouvement tout en syncope et en surprise, avant-garde, mais pas que. Il arrive, il est déjà là. Tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, nous serons à la MEP, la Maison Européenne de la Photographie à Paris, où plusieurs expositions se déroulent en ce moment, dont Gocho Remix. Le photographe Gocho a fait appel au jeune créateur sonore Jules Visoki. On se rendra tout à l'heure à la MEP, au cœur de cette exposition Images et Sons, qui a lieu jusqu'au 30 octobre. Mais tout de suite, on souffle.
Well, I'm waiting for the train, but the train will never come. Yeah, I'm waiting for the train, but the train will never come. I don't know when I'll be back, but it may be long. I don't know when I'll be back, but it may be long. Now I'm waiting all the same, got no reservation. Yeah, I'm waiting all the same, got no reservation. I don't know when I'll be back, but it may be long. I don't know when I'll be back, but it may be long. Now I'm waiting by the tracks, got no destination. Yeah, I'm waiting by the tracks, got no destination. I don't know when I'll be back, but it may be long. I don't know when I'll be back, but it may be long. Train, or is that train riding me? Am I riding on that train, or is that train riding me? That train never slows, can't you see? Sinker, line, and hook, can't you see? I'm so tired of that train, take my leave at dawn. So tired of that train, take my leave at dawn. That train stuck her now to, and now I'm gone. That train stuck her now to, and now I'm gone. on the train, but that train will never come. Yeah, I'm waiting on that train, but that train will never come. I don't know when I'll be back, but it may be long. I don't know when I'll be back, but it may be long.
Bonsoir, bonsoir Scott Taylor.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Vous, on vient d'entendre à l'instant un extrait de votre dernière production, le dernier disque que vous avez produit, autoproduit, intitulé Stranger. Là, c'était The Train, qui est le deuxième morceau du premier CD, parce que c'est un double album.
Un double album, ouais. Voilà,
qui se partage entre un premier disque intitulé Here and Now et le deuxième There and Then. Donc, oui. Ce qui signifie en quelque sorte, si je ne me trompe pas, d'un côté ici et maintenant et de l'autre là-bas et à l'époque.
Ouais.
There and Then, c'est
ouais,
un peu ça.
Ouais.
C'est la question du temps qui traverse ce et, double album.
Ouais, c'est surtout le sujet général de Stranger.
Ouais. C'est ça.
Avant et maintenant. Et voilà. C'est un sujet qui me fascine depuis longtemps. Et comment c'est le mouvement des peuples, quoi.
Mm-hmm.
Et donc, pour toutes sortes de raisons. Et voilà, bah, c'est très intéressant. Et. J'ai trouvé que mon répertoire pour cet album a un peu venu dans l'esprit. On m'a fait remarquer ça sur quelques chansons et je me dis et après j'ai commencé à regarder toutes mes chansons et je me dis mais attends, il y a quand même une petite file
ouais.
de ça partout,
mm-hmm.
partout depuis
ouais.
20 ans.
Ouais.
Et donc j'ai vraiment commencé à regarder ça comme ça. Et je pense que je pourrais continuer à faire les albums. Je pourrais faire une Stranger 2 avec un autre deux albums, je pense.
C'est ça. Double à chaque fois. Mais quand ouais. vous dites ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire être étranger, être dans l'exil, le mouvement, c'est quoi?
Ouais, c'est tout ça. Mais c'est pas juste d'être étranger, c'est d'être les définitions en français. For mm. stranger, c'est étranger, bien sûr, mais c'est aussi inconnu.
Mais c'est l'inconnu, ouais.
Et c'est aussi bizarre.
Ouais, ouais.
Et tout le toit.
Ça veut dire plus bizarre, alors, à ce moment-là. Strange, stranger.
Ouais, ouais. ouais. Uh-huh. Encore plus étrange. et tout ça, ça m'a appelé, enfin. Mm-hmm. Ça m'a touché. Et je pense, bon, je suis un peu un outsider depuis longtemps, mm-hmm. même quand j'étais aux États-Unis. Chez moi, quoi, j'étais un outsider, mais forcément, en bougeant, on se rend compte, on est toujours un outsider. Mm-hmm. Quelquefois, on vit bien, quelquefois, on le vit mal. Mm-hmm. Et c'est pour plein de raisons. Et chacun évolue un peu différent aussi là-dessus, selon les conditions de son mouvement, quoi.
Mm-hmm. Et voilà. Outsider, ça veut dire être en dehors d'eux, ça veut dire aussi ouais. celui qu'on n'attend pas, mais qui finit par arriver. Vous avez commencé, alors, on va vous entendre ce soir, vous nous proposez un ou peut-être même deux lives avec votre accordéon, voilà votre instrument principal. Vous êtes multi-instrumentiste,
oui.
mais là, si vous êtes venu avec votre accordéon aussi, un accordéon d'enfant, voilà, pour varier les plaisirs. Mais vous avez commencé comme trompettiste.
J'étais trompettiste au début. Ça, c'est le premier instrument que j'ai étudié. Mais justement, avec tes questions de début, là,
mm-hmm,
j'ai l'anche libre, ouais. premier son. Je me rends compte, mine de rien, dans ma famille, on avait une de ces petites orgues électriques c'est un harmonium électrique, quoi. Mm-hmm. Mais j'avais ça à la maison et même à 5-6 ans, j'étais dessus tout le temps, j'ai m'appris toute seule. Et je me rends compte, c'est quand même, c'est fou. Après 5 ans plus tard, j'ai mis à la trompette à fond.
Mm-hmm.
Et vraiment, pas nécessairement intensivement, mais sérieusement quand même.
Mm-hmm.
Et c'est drôle que je revienne à ça dans son version manuel, quoi.
Ah oui. Pour vous, c'est la parenté est claire.
Ouais, c'est intéressant. J'avais pas pensé à ça pendant longtemps parce que bon, j'ai pas étudié. C'était vraiment un jouet
ouais.
Quelque part. Mais c'est une espèce de guide voix, que tu vois, avec les accords 6 sur 8 accords préfabriqués, un petit clavier piano, quoi.
Mm-hmm.
Mais c'est des anches libres.
Et c'est quoi des anches libres alors?
C'est ce qui est dans l'accordéon.
Ah, c'est ça qui est dans
l'accordéon. C'est ce qui fait le son dans l'accordéon.
Mm-hmm.
Ça, l'origine de ça, c'est chinois, je pense, mm-hmm. Avec le keng. On appelle ça, je pense, c'est la prononciation correcte. Et c'est l'orgue à bouche, ce que vous appelez l'orgue à bouche en
mm-hmm.
français. Ça, c'est les ancêtres lointains de l'accordéon, quoi.
Mm-hmm.
Et c'est drôle que. J'avais ça dans un harmonium électrique quand j'étais toute jeune, quoi. Mais j'ai revenu là-dessus.
Mmh. Vous êtes en France depuis 1987, non, j'ai vu ça, ouais, fin des années 80. Ouais. Vous avez joué avec beaucoup de groupes. Alors, vous avez la liste devant vous des groupes. On peut presque en faire une performance des groupes avec qui vous avez joué. Il y a notamment les Têtes Raides, hein, avec qui vous avez joué sur deux albums.
Ouais, avec les Têtes Raides, j'ai passé 4 ans. Mm-hmm. Et avec d'autres groupes, j'ai passé quelquefois 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Avec John Greaves, ça fait 15 ans. Mm-hmm. On est en train de faire des collaborations ensemble.
Ah oui, mais d'ailleurs, pour qui s'en souvient, vous étiez de passage dans une grande émission, un hors-série l'année dernière de Supersonic Machin Machine. Je crois que c'était toute fin du mois de juin. Pour une grande session en son, voilà, en son, en relief, en son, en 3 dimensions. C'est là qu'on a fait connaissance d'ailleurs et qu'on a souhaité vous faire revenir. Donc John Greaves, oui, parmi toutes les rencontres musicales qui sont les vôtres. Et donc parmi les autres groupes, alors vous avez qui?
Well, c'est justement, c'est très divers et c'est ça un peu mon parcours, c'est que je pars dans tous les sens des fois. Il y a les Têtes Raides, il y a les Barking Dogs, il y a Atelier Grand Delire, qui était un groupe que j'ai formé en Bretagne, en Finistère. Il y a Edgebel, un groupe tenu par un tambouriste haïtien qui habite à Paris. J'ai eu une collaboration avec Freedom for King Kong, un groupe de l'Orient qui était un peu hardcore, et avec un groupe d'électro dans la fin des années 90, Loop, Lojo. J'en ai fait plusieurs choses avec Denis et Lojo. Je le croise depuis 20 ans, 25 ans sur les routes, donc forcément on a fait des choses. Et Théo Acola. David Lefort, Sage comme des Sauvages, il y a un chanteur lyrique, j'ai travaillé avec Thomas Morse, et il y a aussi un accordéoniste diatonique, Christian Maes, dans le Morvan, que j'ai déjà fait un projet avec, et on est en train de démarrer des nouveaux projets, donc c'est très divers.
C'est très divers.
Lyrique, traditionnel, jazz, expérimental,
hardcore,
musique,
voilà.
Hardcore.
Mais justement, c'est cette question de la liberté, à la fois dans le genre musical que vous pouvez aborder, que ce soit à travers des collaborations comme celle-ci, ou même à l'intérieur de ce disque dont on parlait, Stranger, où vous abordez à la fois des chansons traditionnelles, vous reprenez une chanson de Josephine Baker, par exemple, à l'accordéon, mais ensuite il y a des compositions à vous. Cette liberté-là, comment vous l'adaptez à votre accordéon? C'est naturel? Est-ce que vous, parce que la question sous-jacente, c'est est-ce que vous êtes arrivé avec la mythologie de l'accordéon qu'on peut avoir en France, peut-être encore un petit peu, usage traditionnel?
Absolument pas. Non, bah, absolument pas. Justement, quand j'ai pris l'accordéon, déjà, c'était curieux. J'étais trompettiste. J'avais fait principalement de jazz, mais j'avais aussi, bien sûr, fait un peu de classique. Et j'avais joué dans toutes sortes de groupes comme trompettiste, mais par contre, je voulais un instrument polyphonique et portable et autonome. Et j'avais besoin de quelque chose pour composer, mais aussi, je me dis, j'ai envie de bouger avec un piano, tu peux pas bouger avec un clavier. Tout le monde, à l'époque, c'était début des années 90, tout le monde me disait, ah, un clavier, un DX7, un truc comme ça, et moi, je me dis, c'est démodé tous les 2 ans, ça serait démodé, il faut vraiment apprendre comment ça fonctionne, vraiment aller dans l'électronique. Et après, je me rends compte, hey, des câbles, une multiprise, un ampli, était toujours en train de chercher ici à l'électricité. Je me dis, c'est pas pour moi, hein, je veux quelque chose non nucléaire, s'il vous plaît. Donc, quelqu'un m'a proposé que je regarde l'accordéon. Et c'était bien curieux, et je connaissais rien de cette main gauche, c'était bizarre. Qu'est-ce que ça faisait? Je connaissais pas grand-chose, et j'ai découvert qu'est-ce que c'était, et j'ai commencé à me voir, wow, c'est super. En plus, au début, j'ai pas me rendu compte, malgré que tu rames avec ton main gauche et ton bras gauche tout le temps, j'ai pas me rendu compte, mais mine de rien, c'est un instrument d'avant. Et que j'avais passé 20-25 ans à travailler la compression de l'air avec la trompette, même si c'est pas la même chose, un soufflet, c'est quand même, c'est un travail de l'air.
Eh ben oui, en fait, on délègue ses poumons à l'accordéon.
Voilà. Et donc, j'ai pris un petit accordéon au début, et jusque ça commence à tomber en morceaux, parce que c'était pas assez sérieux, et donc j'ai monté un meilleur modèle, et voilà. Et ça a commencé comme ça, l'accordéon, pour moi.
Et ensuite,
j'ai décidé, J'étais bien sûr conscient, pas longtemps après ça, j'ai entré dans la tête raide, mais j'étais conscient de l'accordéon en France. Mm-hmm. Mais par contre, j'ai commencé à me dire, well, qu'est-ce qui se passe ailleurs Et j'ai commencé à regarder l'Italie, Allemagne, même si les Anglais ou les Irlandais, qu'est-ce qu'ils font dessus? Et après, j'ai commencé à partir plus loin et j'ai commencé à chercher vraiment l'accordéon partout dans le monde. Et comment chaque pays, chaque culture même, dans chaque pays, chaque ethnie a s'approprié dans une différente manière cet instrument extraordinaire. Et ça m'a donné plein des idées et surtout ça m'a vraiment donné une idée très large de qu'est-ce qui est cet instrument, et les possibilités. Ça, couplé avec le fait que j'ai fait beaucoup de cuivres et des sections de cuivres, mm-hmm. les orchestrations, je me retrouvais sur mes mains un mini orchestre.
Un petit orchestre au bout des doigts, oui, absolument.
Donc, je me dis, c'est génial, mais voilà.
Scott Taylor, je vous propose de vous approcher des micros qui ont été installés pour un premier live dans Supersonic. Votre accordéon est prêt. Est-ce que vous savez ce que vous allez nous jouer?
Je vais vous jouer Stranger Blues, qui est sur mon album Stranger. Et voilà, c'est une voyage, disons.
Alors, okay, on va voyager avec vous. Okay. Installez-vous. Scott Taylor est l'invité de Supersonic ce soir sur France Culture.
Just what they sow. Well, I'm a stranger here, and I'm a stranger there, and I'm a stranger just about everywhere. Yes, I'm a stranger here, and I'm a stranger there, and I'm a stranger just about everywhere. Yes, I'd go back home, man, but I'm still a stranger there. Well, ain't it hard to stumble when you got no damn place to fall? Ain't it hard to stumble when you got no damn place to fall? In this whole wide world, I got a no damn place at all. When I packed my bags, thought I'd leave behind my cares. When I packed my bags, thought I'd leave behind my cares. We're going on some 10 years now, and I'm still looking for a good deal somewhere. Well, I'm a stranger here, and I'm a stranger there, and I'm a stranger just about everywhere. Yes, I'm a stranger here, and I'm a stranger there, and I'm a stranger just about everywhere. Yes, I go back home, man, but I'm still a stranger there. Thank you.
le Stranger Blues de Scott Taylor en live avec son accordéon dans Supersonic ce soir sur France Culture. Bah, rejoignez-nous alors Scott Taylor, on va continuer la conversation, on va aussi continuer à faire résonner ce Stranger Blues dans notre esprit. On s'est rendu compte qu'évidemment ce que vous disiez tout à l'heure, l'accordéon permet de bouger, de se déplacer plus facilement qu'avec par exemple un piano, mais permet aussi, enfin, le piano vous me direz ça permet aussi, mais plus qu'une trompette, l'accordéon permet de chanter. Puisque vous chantez.
Ah voilà, quand t'es trompettiste, tu peux chanter et chanter et jouer, mais pas quand tu peux pas faire les deux en même temps. Hein.
Parce que justement, il y a la question de l'écriture aussi, de vos chansons. Ça s'écrit comment, ça s'écrit quand? Et sur, vous disiez tout à l'heure, la thématique de l'étranger, du déplacement, de l'exil, en quelque sorte, c'est trouvé un peu comme ça, toute seule, mais ça veut dire que vous écrivez sur ce sujet-là?
Oui, sur ce sujet, mais c'est... En fait, l'accordéon, c'est aussi, je me posais une longue question quand j'étais trompettiste et j'étais dans un milieu plutôt de jazz. Bon, forcément, j'étais tenté par les choses free, mais quelquefois, t'as envie... En fait, je me posais des questions sur l'écriture et les choses plus improvisées, mais c'est une question de temps, c'est une question de, voilà, de travail, quelquefois. Et ça m'a gêné d'écrire et avoir les gens qui se bloquent dans un partage, quoi. Et en même temps, t'avais pas nécessairement le temps de faire évoluer un truc. Bien sûr, on peut improviser sur la spontanéité et faire ça dans le moment, mais je me dis, il y a aussi un travail qui se fait quand tu fais multiples fois et tu changes chaque fois et c'est en pleine évolution en permanence, quoi. Et c'est ça ce qui m'a intéressé et à l'accordéon, finalement, j'ai pu le faire en plusieurs parties des fois. Et mais avec multiples musiciens, j'ai trouvé ça c'était difficile de trouver les conditions pour mieux faire avancer la musique et faire évoluer.
Une des grandes conditions de votre travail, j'ai l'impression, avant toute chose, c'est la liberté. Liberté de mouvement, liberté de jouer, liberté d'avoir son propre orchestre finalement au bout des doigts, comme vous disiez tout à l'heure. Et liberté d'utiliser, d'user de l'accordéon dans toute une palette. Par exemple, l'accordéon existe comme instrument expérimental aussi. On pense à Pauline Oliveros, par exemple, qui est une grande compositrice et accordéoniste, on va dire, expérimentale. Et jusqu'à, évidemment, il n'y a peut-être pas plus populaire aussi comme instrument. Est-ce que c'est l'instrument par excellence qui permet ça, ce spectre-là, du populaire à l'expérimental?
Oui, je pense que tout instrument devrait faire ça, justement.
Devrait,
Moi, j'essaie, et peut-être c'est un peu mon sujet, mon obsession, c'est de ne pas tomber dans les formats trop. Mais c'est aussi, je suis curieux de toujours aller ailleurs. Mon parcours des groupes, par exemple, mine de rien, je connaissais rien de certaines musiques que j'ai jouées. Au début, je connaissais rien, mais je me dis, mais putain, tu vas apprendre. Et ça, c'est chouette. Tu vas planter une graine que, je sais pas, peut-être ça va te prendre 6 mois, 6 jours, 6 heures ou 6 ans, tu sais pas, mais tu vas recruter des fruits de ça quelque part. Ça va te donner un coup de pied dans le cul, comme on dit. Et au lieu de rester dans tes routines et tes habitudes, tu te projettes, tu sautes de la falaise un peu, tu te projettes dans l'inconnu, quoi.
Oui. Mais sans se prendre au sérieux, ça, j'ai remarqué aussi, ça fait partie de votre caractère, plus encore que votre musique. Bah, ne serait-ce que les titres d'albums, là, comme un album qui s'appelle Grand Délire, enfin, le groupe s'appelle Grand Délire, il y a Laughing for Myself, donc, ça, c'était le premier album, c'est ça?
Laughing with Myself, c'est le premier album. J'avais fait une cassette avant, mais c'est le premier CD, Et non, mais justement, il y a de l'humour partout et je sais, c'est drôle. Justement, je me dis, c'est une partie de moi. L'humour, c'est une partie de moi. Je rigole pas toujours, peut avoir l'air. Je rigole pas toujours, mais c'est...
C'est marrant. C'est drôle parce qu'il faut souvent s'excuser d'avoir de l'humour.
une des trucs que j'ai remarqué en jouant avec les groupes, c'est... Tu sais, quand tu partages un camion et une tournée avec quelqu'un...
Le tourbus.
le tourbus, le backstage, tous les repas ensemble, les balances, le concert, la fête après et tout ça. Et tu vois les gens déconner à 200 à l'heure pendant des heures et des heures et des heures. Après, ils montent sur scène et c'est hyper sérieux. et je me dis... Comment ça se fait, ce mec-là qui n'a pas arrêté de rigoler pendant 8 heures, il monte sur scène et tu dirais que c'est Clint Eastwood dans une fistful of dollars, tu vois, que c'est super sérieux, quoi. Mm-hmm. Et je me dis, notre humour, ça fait une partie de nous. Mm-hmm. Moi, je me dis, je me pose je me pose toutes sortes de questions. Et je me pose des questions, est-ce que le humour a une place dans ce que je fais? Et je pense si. Il a sa place, il a pas toute la place. Mm-hmm.
L'humour, une forme de légèreté qui peut être aussi dans, mmh. dans même l'objet que vous produisez régulièrement. Mmh. Il y a eu Biscotte qui était l'album avant Stranger, si je ne me trompe pas.
Non, il est bien avant. Il y a 10 ans de séparation, 10 ans ou plus, 12 ans. Mais oui.
Il y a eu Biscotte, il y a Stranger dont on parlait tout à l'heure, qui sont des objets fabriqués à 1000 exemplaires, presque à la main, de manière artisanale.
Chacun unique, voilà.
Chacun unique, vous ajoutez des petites choses dans chacun. Dans l'exemplaire que vous m'avez donné, il y a des sparadraps de couleurs, vous surlignez au stabilo certaines paroles, etc. Ouais. Donc là, c'est aussi, Stranger, on a compris que ce n'était pas forcément un album d'humour, ce n'est pas du tout ça. Mais par contre, il y a une forme de légèreté, de modestie, et aussi de manière de s'amuser avec la personne qui va écouter, c'est un peu ça.
Oui, oui, et c'est même, si tu veux, on peut dire c'est même interactif, tu sais, si c'est moi qui fais les choses là-dedans, quelqu'un d'autre peut le faire aussi. C'est pas un truc qui garde nécessairement pristine et parfait comme ça. On peut faire notre propre truc là-dedans.
On peut le faire, ça veut dire aussi qu'on peut le faire circuler, que c'est fait pour circuler.
Biscotte, c'était vachement dans cette veine-là, tu vois, parce qu'ils sont tous uniques.
Oui, c'est une sorte de petit cahier, il y a un travail graphique.
Un cahier, c'est Guillaume Cassard, qui travaille à Marseille, qui a vachement travaillé sur cet album. Il est très responsable pour cette pochette-là. Hein.
Justement, comment on les trouve, Scott Taylor, vos albums? 1000 exemplaires fabriqués à la main?
Justement, je ne suis pas l'ami des distributeurs. Hein. Et j'ai tenté plusieurs fois vers la distribution de l'amener ça à un autre niveau et chaque fois, ça n'a pas passé. Donc je me dis quand même, je fais ce que je fais ça, je vends quelques-unes en concert des fois.
C'est ça, il faut surveiller les dates, voir si vous passez pas très loin de chez nous, et puis il faut aller vous rencontrer, discuter un peu.
Oui, voilà. On peut aussi, je me cache pas, on me retrouve sur les différents réseaux sociaux, et on peut obtenir de musique qu'on en a envie. Hein. Et voilà.
Et on peut vous proposer un deuxième live dans l'émission.
Ah oui, une petite.
Une petite.
Tout petit.
Eh bien, allons-y.
OK.
Merci.
Sometimes I get so wound up, no sleep will ever come, and I lay listening to my breathing, hypnotized by this inner drum. Spinning faster than the earth and the sun. My seatbelt's never fastened when I wanna have my fun. And at the speed of light, or something near at any rate, my skin begins to tingle and my conscience clears.
soon as be it too late. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, hold 'em down or let 'em ride. With time I will abide, and this fever may subside. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, hold 'em down or let 'em ride. With time I will abide, and this fever may subside. Now be left with an old deck, missing cards, but I will check that rope that's tightening around this slippery neck of what will remain of a tired wreck.
Il n'y a pas d'étrangers ici, seulement des amis que vous n'avez pas encore rencontrés. William Butler Yeats, voilà une phrase qu'on trouve quand on ouvre ce double album Stranger, signé Scott Taylor, qui est l'invité de Supersonic ce soir et qui vient de nous offrir une deuxième performance en live avec son accordéon. On en aura peut-être une troisième qui sera cette fois sur le site de France Culture, sur le site de Supersonic, sur franceculture.fr. Et oui, on peut parler d'une forme d'éloge de la différence ou de ses difficultés aussi.
Justement, c'est un éloge de différence, c'est sur la diversité, si c'est un mot un peu abusé, utilisé beaucoup, mais c'est, voilà, c'est sur la diversité, le vivant, le vivant qui est pas en packaging, quoi. C'est pas, on sort pas la même moule.
Mais au-delà de ça, c'est d'un point de vue personnel, de votre point de vue à vous, c'est évidemment une forme de témoignage. Vous le disiez tout à l'heure, toujours été outsider, y compris aux États-Unis, se fabriquer son propre chemin, ce qui est aussi une définition de l'artiste.
Oui, ça peut être les petites choses. J'ai toujours m'a fait remarquer depuis aux États-Unis, et quand je retourne, ça m'a pris d'ailleurs de vivre longtemps en étranger. Je suis plus que moitié de ma vie en étranger. Ça m'a donné un peu de perspective, de recul sur le sujet, sur plusieurs angles. Et ça, c'est, voilà, pour mieux comprendre ça. Mais c'est fascinant. C'est un sujet, je pense, on a été assez intéressé beaucoup plus parce que c'est, depuis tout le temps, il y a le mouvement des gens.
Mais vous conseillez l'exil?
Je sais, bien sûr. Je pense que ça, c'est un truc positif. Je sais pas, un exil, mais c'est, faut sortir de, comment tu dis, les sentiers battus.
Ouais,
c'est ça?
C'est ça.
Faut sortir des sentiers battus un peu et se poser des questions et, mais je pense que sortir des sentiers battus, c'est pas nécessairement de ce truc. C'est aussi, d'avoir le temps de réfléchir et venir à ses propres réflexions. Il y a des gens qui, par exemple, qui voyagent beaucoup en groupe. Mais un groupe, c'est super pour le groupe, c'est peut-être très convivial et tout ça, mais forcément, t'es moins en contact avec ce qui nous entoure. Moi, d'ailleurs, même si c'est des groupes en voyage ou des groupes en tournée, moi, c'est une des trucs que j'ai remarqué quand j'ai commencé à tourner toute seule. Oh là là, t'es vraiment, comment tu dis, au vif de la chose, quoi. T'es au vif dans l'affaire. T'es plus du tout dans un groupe. T'es indépendante de ton agenda selon de, autant que tu fais ton concert. Le reste est libre et tu fais tes décisions. Tu vas où tu vas. Tu as les conséquences de ça aussi. Mais par contre, là, tu te jettes dans plein de choses inconnues et t'as plein des expériences. On n'est pas garanti tout le temps, mais par contre, faut attendre. Les choses arriveront.
Une chose est arrivée ce soir. Vous êtes venu nous rendre visite dans Supersonic, Scott Taylor. Merci beaucoup de nous avoir offert ces deux lives et d'avoir répondu à nous quelques questions. Et à bientôt.
Ok, à bientôt.
Cher, mais Gilles, je regarde.
Faut que je re-respire.
Cher. Non, j'aime beaucoup, par exemple, toucher le velours. Oh.
Ah, ça?
Maintenant, là, j'allais pleurer. Ah, oui. Non, j'ai pas envie de pleurer, mais j'ai envie de pleurer.
Pour moi, oui.
Mais c'est ce que. Et non, mais en plus, c'est ce que je me répète tout le temps à moi, dans les trucs.
Cher. Déjà, un rapport un peu difficile avec le velours. J'ai envie de gratter.
Yes.
Et voilà que commence la deuxième partie de Supersonic.
J'aime bien toucher les trucs.
C'est ce que j'ai envie de dire à des gens.
On se pince comme ça. On peut se pincer. Se gratter.
I am going on.
Mais alors, grattez-vous avec du velours sur vous.
En ce moment, à la Maison européenne de la photographie et jusqu'au 30 octobre, on trouve une exposition qui marie l'image et le son. L'exposition s'appelle Gaucho Remix. Le photographe s'appelle Gaucho et le remix, terme sonore et musical bien sûr, vient de l'intervention d'une bande-son, une composition électroacoustique de Jules Visoki. Le remix, c'est celui d'une exposition qui a eu lieu il y a 20 ans. Il s'agissait de portraits de Gaucho lui-même par la photographe américaine Nan Goldin, que Gaucho avait habillé à même la photo avec des robes signées des plus grands couturiers des années 90. On a rencontré Jules Visoki, donc le créateur sonore qui a travaillé avec Gaucho pour l'occasion, à la Maison européenne de la photographie à Paris. Il y a eu la première exposition il y a 20 ans, et du coup, 20 ans plus tard...
Et donc du coup, 20 ans plus tard, Jean-Luc Monterosso a proposé à Gaucho de refaire une exposition. D'aller plus loin au-delà d'une simple rétrospective, de re-questionner son œuvre 20 ans plus tard. Et Gaucho a eu, je pense, la belle idée de photographier les envers, de les photographier de noir à la lampe torche. Voilà, donc avec aussi un procédé très archaïque, même si la photo est extrêmement détaillée et minutieuse. Il y a quelque chose de très brut aussi.
Alors, dans le nom, le titre de l'exposition, Gaucho Remix, il y a le mot remix. Et un remix, c'est un terme plus sonore que photographique, a priori. C'est là que vous intervenez, vous, en tant qu'artiste sonore ?
Alors, pas tout à fait, mais c'est forcément en lien. Et ça a été en lien, et on en a discuté aussi à ce propos. C'est remix pour différentes choses. Remix parce qu'il revisite ses pièces. Remix parce qu'il a été même jusqu'à créer recréer un tirage de 7 mètres de haut sur 2,5 mètres de large, un tirage photographique qui l'a froissé pour en créer une sorte de grande tornade colérique et de vortex. Voilà, donc remix pour ce travail de dépassement de ses œuvres. Et remix évidemment parce qu'il m'a proposé de venir d'intervenir sur son travail pour proposer une création sonore spécifiquement composé pour le lieu, pour cette exposition-là, pour la MEP, en fait. Donc voilà, ça répond à ces deux interrogations, quoi.
Donc oui, il y a une œuvre sonore dans laquelle on est littéralement plongé quand on visite cet étage et cette partie de la Maison européenne de la photographie, quand on voit les photos de Gaucho et ce remix photographique. Il y a donc on est plongé dans une véritable bande-son, presque dans une bande originale de l'exposition. Et c'est pas par hasard si je parle de bande originale, parce qu'il y a une référence au cinéma, dans l'esthétique de ce que vous proposez, Jules Visoki.
Oui, absolument. En fait, on a tout de suite, il y a eu cette idée de travailler sur deux entités contraires. La première était le désir de travailler sur des extraits de films hollywoodiens. Je sais qu'on s'est rencontré avec Gaucho aussi parce que j'ai une pratique de monteur son et de mixeur au cinéma et que je l'amène de front avec de la création sonore. Donc il savait ça. Il savait aussi qu'il avait l'envie de travailler sur des extraits de voix de Dolores González, qui était une amie comédienne, une proche. Dont il avait envie de réutiliser la voix pour que ce soit la présence féminine de l'exposition. Et voilà, donc ces deux éléments de départ, c'était ces deux souhaits, ces deux volontés, et il m'a appelé pour qu'on réfléchisse ensemble à pouvoir créer quelque chose autour de ces deux entités. Et très vite, évidemment, la question a été à partir de ces deux entités, de réfléchir à un moyen de les faire coexister, quoi. Voilà. Donc, on a travaillé 2 mois. Ça a été assez long, 2 mois à temps plein, sans cesse ensemble. Donc, voilà, il y a eu vraiment un échange parce que Gaucho a une sensibilité au son assez incroyable et surtout une exigence très particulière, digne d'un styliste de haute couture. Donc, c'était aussi très déstabilisant, enfin, d'avoir ce rapport avec à la fois avec quelqu'un de l'image, quelqu'un du vêtement, voilà, qui a à la fois cette délicatesse et ce côté que je considère comme un peu punk.
I've got 2 wonderful arms, I've got 2 wonderful lips, I'm over 21 and I'm free. Oh, I've got a heart full of honey. I'm not the glamorous type, but I'm the amorous type. You love the way I fit on your knee. Oh, I've got a heart full of honey for the right kind of honeybee.
Par cette dualité, ces deux entités à l'intérieur de la pièce sonore, on l'entend aussi dans la référence alors à cette âge, une forme d'âge d'or hollywoodien et en même temps l'âge d'une censure. Il y a une référence au code Hays qui était, si je ne me trompe pas, le code de censure, enfin, voilà, qui devait veiller aux bonnes mœurs représentées dans le film, dans votre pièce sonore. C'est très présent.
Oui, c'est présent comme une entité est présente et comme l'autre l'est aussi et comme les deux voilà, se rejoignent. Mais c'est présent et effectivement. Pourquoi ? Parce qu'il avait ce désir de travailler sur des bandes-son hollywoodiennes, parce qu'il a une affection pour le glamour et en même temps il est extrêmement critique par rapport à ça, donc une ambivalence. Moi qui me questionne aussi évidemment sur la question de la représentation aussi. Et sauf que de dire j'aimerais travailler sur des extraits hollywoodiens, c'est vaste quoi. C'est-à-dire qu'on balaye presque un demi-siècle de cinéma et débrouille-toi. Donc j'ai ciblé, j'ai fait quelques recherches, je suis allé en bibliothèque, je me suis replongé dans le travail de Nal Goldin aussi pour revoir ses photos, me replonger dans tout cet univers des années 80-90 qu'elle a pu photographier à travers Godshow et bien d'autres. Et également dans des recherches par rapport à la thématique hollywoodienne. Et très vite, en fait, je suis tombé sur cette période du Code Hays que je connaissais, mais donc voilà, je m'étais pas forcément attardé, et j'ai regardé pendant près d'une semaine un corpus d'une trentaine de films, qui en tout cas, usaient des techniques scénaristiques pour créer de l'ambiguïté et par ce biais-là déjouer la censure. Donc en fait, c'est très subtil et ça passe aussi par le sonore, ça passe par les dialogues, ça passe par les ambiances, par quel type de musique, comment elle est mise en scène, etc. Et donc en fait, le matériau d'Hollywood, c'était ça, c'était des fragments. J'ai essayé de voir les films et j'ai essayé de me poser la question de quel fragment m'évoquait pour moi cette ambiguïté-là. Ça pouvait être un son, un regard donc, qui n'est pas sonore, mais il a forcément un son qui lui est attribué.
Des ellipses, j'imagine.
Des ellipses, des cuts, enfin voilà, des choses. C'est très, très fragmenté hein, comme travail. Et donc voilà, et tout ça a constitué notre matériau de base. Donc on avait des rushs et des heures de matériaux qu'on a ensuite élagué petit à petit. On a fait des concessions comme un travail de montage cinématographique. Et on a épuré pour avoir une forme de 15 minutes,
J'imagine qu'il y a une... Enfin, ça donne tout de suite une esthétique sonore. Se plonger dans une certaine époque, années 50-60, peut-être fin 40 aussi, je ne sais
oui,
pas.
Oui, c'est ça, en fait. C'est fin années 30, enfin exactement, c'est de 34 à 66, pardon.
Et donc cette période-là donne une esthétique sonore, donne une couleur, une patine particulière.
Oui, absolument. Et à la fois d'un point de vue des voix, des timbres des voix, on reconnaît certains acteurs, certains rôles, à la fois d'un point de vue des musiques, de l'esthétique des musiques. Et après, voilà, ce qui était intéressant, c'est aussi de dépasser un peu ça, de la confronter, de la déstabiliser, de la tordre aussi, avec des techniques qui sont celles de l'électroacoustique, que j'ai voulu extrêmement réserver d'effets. Je voulais très très peu d'effets, revenir à la question de la bande et du cut de bande. Donc il y a beaucoup de cuts, mais très peu d'effets.
Retour au cut, il faut dire quand même, effectivement, c'est l'esthétique plus liée à la bande magnétique initialement. Il y a une disparition du cut avec les techniques numériques.
Bande magnétique et argentique. Le montage image se faisait par le cut comme le montage audio. En fait, il y avait vraiment cette chose-là. Donc, on a essayé de préserver ça à la fois donc pour Hollywood et en même temps à la fois pour Dolores. En fait, on est parti. J'avais pareil des heures de rush de studio où à la fois elle disait un texte que Groucho lui avait dit pour un autre projet, rien à voir.
Dolores, c'est donc cette comédienne.
Ouais, absolument. Cette comédienne, amie de Groucho, qu'on voulait devenir la voix féminine de l'exposition. Et donc il y avait ces rushs qu'on avait à disposition, qui étaient des extraits de studio et aussi une portion d'entretien où elle racontait son rapport aux vêtements, son rapport au voyage, son rapport à la matière, des choses comme ça. Et en fait, on a utilisé un peu les mêmes procédés de composition, à savoir le cut et donc le micro-montage et des procédés de musique électroacoustique qu'on connaît.
Donc on est à la fois dans le réel et dans la fiction, parce qu'elle raconte des choses personnelles, mais aussi elle lient texte.
Oui, absolument. En fait, ce qu'on voulait essayer de faire, c'est de se mettre à la place aussi d'un metteur en scène et donc de lui créer un personnage, de lui faire dire quelque chose, comme si elle était encore là et comme si elle pouvait jouer le rôle qu'on souhaitait lui faire jouer. Et donc ça, c'était assez amusant. C'est vrai que c'est une directive que j'ai prise par rapport à Gaucho, qui lui, de toute manière, était très affecté par cette voix-là. Et donc je me suis mis à la bousculer, à la travailler. Et puis en fait, finalement, on a beaucoup ri, quoi. C'était une période très drôle, en fait, où on a eu des fous rires en faisant ce travail-là. Et je pense, et j'ai cru sentir, je crois qu'il me l'a dit, que ça lui a fait aussi, qu'il pense qu'on ne pas avoir trahi la mémoire de cette personne-là.
Sa mémoire, c'est-à-dire ?
Non, je dis ça parce qu'elle est décédée. Ah oui, elle est décédée, et donc c'était aussi une manière, sans le dire dans la bande, de lui rendre hommage. Enfin, je pense.
C'est une matière assez bizarre. Non, oui, difficile à définir, cher. Oui.
Oh, mais merde, pourquoi ?
C'est transparent.
Ah bah faut savoir. Oh, mais non, mais j'adore ça aussi.
C'est très très lisse au toucher. Comment on fait ça ?
Non.
Mais c'est tout à fait.
Non.
C'est un tissu qui est prêt.
Évidemment.
Oui, non. C'est tout à fait évident.
Ah d'accord.
Ah bah moi j'aime bien.
Mais moi je trouve pas.
Il n'y a pas d'épaisseur.
Il y a une dimension aussi qui est la spatialisation de cette œuvre à l'intérieur de l'espace de l'exposition. A priori, la Maison européenne de la photographie n'est pas un lieu de projection sonore, en tout cas pas fait pour ça, c'est plutôt fait pour afficher des images. Comment ça s'est passé et quel est le type d'immersion qu'on vit quand on se balade à l'intérieur de cet espace-là ?
C'était vraiment la question. Moi, c'était mon premier projet muséographique, donc évidemment la question se posait de l'espace et du temps par rapport à ma pratique de cinéma et aussi de compositeur. C'est pas du tout la même manière d'envisager ni le temps ni l'espace. Donc on s'est posé quand même beaucoup de questions, d'autant plus que le lieu était extrêmement réverbérant, assez grand. Il y a deux grandes salles qu'il fallait couvrir. Donc en fait, on a fait une série de tests, d'essais, on a imaginé plein de solutions, et finalement on en a retenu une qui était un peu onéreuse, certes, mais voilà, vu qu'on avait quand même l'appui de Gaucho, l'appui de Jean-Luc Monterosso, le directeur de la MEP, et on a quand même réussi à obtenir un dispositif sans précédent, donc composé de 18 enceintes, réparties dans les deux salles, et on a travaillé sur une composition donc multipiste où on avait la possibilité de délimiter 8 zones dans l'espace dans lequel on pouvait diffuser tel son ou tel son. Ce qui nous a permis vraiment d'écrire un parcours, comme Gaucho a pensé un parcours dans l'exposition, pour guider à la fois l'écoute, structurer nos deux entités. Il y a une salle pour Hollywood, une salle pour Dolores, et de faire en sorte que, par le biais de la composition et du synchronisme des bandes, qu'au centre de l'exposition, on puisse à la fois percevoir Hollywood et Dolores comme une entité à part entière qui vit en tant que telle. Et donc ça a été la plus grosse partie du travail, d'arriver à trouver le moyen d'un point de vue rythmique et d'arriver à synchroniser ces deux entités qui parfois se faisaient violence et ne voulaient pas rentrer en collision ou pas rentrer en symbiose, quoi. C'était toujours un peu une lutte qui a duré quand même quelques semaines. Mais donc disons qu'il y a cette trajectoire, ce passage, et finalement c'est le visiteur en déambulant dans la salle qui opère son propre mixage. Ça, c'était aussi quelque chose d'important parce que Gaucho pense l'exposition comme un cinéma également, mais dont le spectateur serait le propre monteur en fonction de la manière dont il balaye le regard. Et bien là, pour le son, c'est la même chose. Le spectateur est son propre mixeur, et donc il décide d'entendre ci ou ça, et il peut même aller jusqu'à rester dans la salle pour profiter simplement de l'ambiance, écouter, se taire, et voilà. Et ça, c'est des conditions, c'est vrai, que j'avais quand même envie de défendre, c'est-à-dire de faire le même calibrage que dans les salles de cinéma, avoir le même niveau sonore. Je pensais me faire taper sur les doigts, et finalement, on a réussi à obtenir ce qu'on a voulu. Même niveau sonore que dans les salles de cinéma, même rendu, pour avoir une sorte d'immersion à l'intérieur de la pièce qui pour nous était extrêmement important. Et d'autant plus tout ce que j'ai dit à Gocho dès que j'ai accepté le projet. Je lui ai dit, voilà, moi, c'est avec plaisir, mais je ne veux pas de musique d'ambiance, sauf si vraiment ça s'y prête, mais je ne pense pas. J'aimerais un son plein, j'aimerais que entendre un son plein dans un musée. Et en fait, j'aimerais que ce son-là soit dans un niveau suffisant pour qu'il ne puisse pas permettre aux spectateurs de parler. Et qu'il génère ce fait d'être en silence devant l'œuvre. Et pour moi, ça, c'était quelque chose qui était très important pour vraiment ressentir quelque chose. Donc là, on offre la possibilité, après, libre au spectateur de l'éprouver, quoi. Mais voilà.
Et Gilles Wysocki, finalement, avec cette exposition Gocho Remix à la Maison Européenne de la Photographie à Paris, vous, vous opérez la synthèse entre votre travail d'homme de son de cinéma et votre travail, votre identité d'artiste sonore.
Oui, absolument, oui. Mais c'est ce qui me plaît et c'est ce que je cherche en ce moment, enfin en tout cas, c'est d'arrêter de cloisonner les métiers, le savoir-faire, un tel et machin, non, j'ai ces deux chemins qui se tissent, qui se nourrissent les uns les autres, je ne conçois pas d'arrêter le cinéma parce que je fais de la création, je ne conçois pas d'arrêter la création parce que je fais du cinéma, parce que le cinéma est création, la création est cinéma, blablabla. Voilà, donc tout ça pour moi est du même essor, ça permet de travailler la technique, de me poser des questions nouvelles. Donc ça me plaît tout à fait et pour moi c'est entièrement lié. Ouais.
Jules Wysocki, créateur sonore compositeur, parlait de l'exposition Gocho Remix qui se tient à la Maison Européenne de la Photographie à Paris jusqu'au 30 octobre.
Just put a lot of love in it.
C'est la fin de Supersonic. À réécouter, podcaster, commenter sur franceculture.fr. Vous trouvez aussi un bonus à l'émission de ce soir et un live original supplémentaire de Scott Taylor, Bande de Vénards. On se retrouve la semaine prochaine pour une grande soirée en public à l'occasion de la Nuit Blanche avec les camarades Mathieu Conquet et François Angelier. Dès 21h, venez nous rejoindre si vous êtes dans les parages. Nous serons à deux pas du Pont Neuf à Paris, donc à partir de 21h et jusqu'à minuit. Mais dites-moi un petit post-scriptum, un mot de poésie pour terminer avec un livre d'Anne Kawala qu'on vous signale, Le déficit indispensable, c'est le titre, ça paraît aux éditions Aldante, qui est comme une partition poétique, un livre à tiroir, un livre qui joue avec la page aussi, grand récit et fragments, un livre sonore qui grince et qui claque, on voulait vous le signaler, voilà c'est fait, Le déficit indispensable par Anne Kawala aux éditions Aldante. Ce soir l'émission était préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, à la réalisation c'était Thomas Duterre et au son Guillaume Ledu. Dans un instant les Nuits de France Culture commencent. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à 21h pour la Nuit Blanche. D'ici là, tendez l'oreille et portez-vous bien.